le titre de mon message, Au-delà des apparences. Alors ce matin, j'avais une question très indiscrète finalement. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes des vrais disciples? Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes des chrétiens en relation avec Jésus? Ah, c'est vrai, il faut quand même se poser la question. Moi, je ne peux pas vous demander votre carte enfant de Dieu, il n'y en a pas. Je ne peux pas me contenter de regarder votre habillement, parce qu'il n'y a pas un style chrétien, évangélique, né de nouveau. Il n'y a pas ça. Ce n'est pas un style disciple de Christ, il n'y a pas non plus. Je ne peux pas juste vous écouter de me le dire. Parce que vous savez, on peut dire ce qu'on veut. Et oui, ça c'était le problème de Jean, le disciple de Jésus. Vous connaissez Jean? Un homme plutôt doux, un homme affectueux. Les évangiles parlent du disciple que Jésus aimait. On le caractérise souvent par cette position de sa tête contre la poitrine de Jésus. Ça paraît pas tout très, très masculin tout ça. Mais pourtant, Jean avait reçu quelque chose de particulier. Jean avait ressenti vraiment et vivait l'amour de Christ. Alors Jean, le disciple que Jésus aimait, ça ne veut pas dire que Jésus n'aimait pas les autres disciples. Hein. Attention, je vous rassure, il les aimait tous, mais c'était un amour plus particulier, un amour peut-être plus manifeste. Bon, je ne sais pas, moi, il y a même des gars dans l'église, je leur fais la bise. Hein. Mais c'est rien de forcément différent. Il y en a d'autres qui me serrent la main, puis ce n'est pas moi qui leur serre la main, c'est eux qui me la serrent. Ça doit être une question de grosseur de main, je ne sais pas. Mais voilà, le contact passait bien entre Jésus et Jean. On dit parfois que Jean était simplement le disciple de l'amour. Donc il aimait parler de l'amour, il aimait communiquer l'amour, et puis il cesse de nous en parler dans ses écrits. Et puis lorsqu'il écrit la première épître de Jean, une épître générale au fin du 1er siècle, eh bien, il réalise qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais ils se posent la question, est-ce qu'ils sont vraiment des disciples? Que croyaient-ils vraiment? Il y avait le début du gnosticisme. Ça, c'était un problème, parce qu'ils disaient des choses sur Jésus, ils se disaient même chrétiens, mais la théologie, ça ne marchait pas, leur vie de foi, ça n'allait pas non plus. Vous savez, chez nous aussi, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais le sont-ils vraiment? Et des fois, c'est culturel, hein, sans jugement aucun. La plupart des gens, on va dire, vont à l'église, peut-être aux États-Unis. Il y en a beaucoup, les églises sont bondées. Est-ce que ça veut dire que forcément tous sont des disciples? De l'Amérique latine, ou même en Afrique, hein, il y a beaucoup de gens qui vont le dimanche à l'église. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont réellement des disciples de Christ? Je me souviens, j'étais encore assez jeune, quand Bill Clinton est devenu président, on m'a dit « il est chrétien ». J'étais petit, je dis « ah bon, ben, c'est super, ça doit être, c'est étonnant, c'est rare ». Puis après, il y a Bush qui arrive au pouvoir, puis il m'a dit « il est chrétien ». Je dis « ah, lui aussi, il est chrétien, ben, on va voir ce qui se passe alors ». Puis après, il y a Obama qui est arrivé au pouvoir, puis on m'a dit, en fait, on m'a tout dit pour Obama. Il est chrétien, il est musulman, enfin, on ne sait pas trop. Bon, en tout cas, il semble être fidèle à sa femme, lui au moins. Simplement pour vous dire que entre ce qu'on prétend être et ce qu'on est vraiment, il y a souvent un décalage. Alors on va donc s'intéresser ce matin à cette première épître de Jean, dans laquelle il va dire ceci, je vais lire quelques versets dans Jean chapitre 1, le verset 6 premièrement, écoutez bien. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Verset 8, si nous disons, nous n'avons pas péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et puis au chapitre 2, verset 4, celui qui dit, je le connais, mais ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Wow, c'est sévère, hein. On ne peut pas dire être en communion avec lui puis vivre dans les ténèbres. Parce que Jésus est la lumière. On ne peut pas être dans les ténèbres si on connaît la lumière. Certains vont dire, moi, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de péché. Je n'ai pas besoin de la lumière. Ben, celui-là, il se trompe. On ne peut pas être en communion avec Jésus sans passer par la croix, sans reconnaître notre état de pécheur. On ne peut pas non plus dire qu'on connaît Jésus si on ne vit pas sa parole, si on n'obéit pas à ses commandements. La vérité ne peut pas être en nous. Donc, dans ces versets, Jean relève cette incohérence, ce décalage. Il va faire ça au début de son épître, puis ensuite, pendant les trois chapitres suivants, il va expliquer finalement comment reconnaître un chrétien en communion avec Dieu. Comment reconnaître le vrai disciple. Je lisais l'histoire d'un pasteur, ça existe, un pasteur à Honolulu. Vous savez où c'est Honolulu? C'est une vraie ville. Hawaï. Non mais des fois il y a des noms comme ça, on se dit est-ce que ça existe vraiment? C'est un peu tellement, on rêve d'Honolulu mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. La première fois que je suis allé à Ouagadougou, hein, je savais pas que c'était vraiment une ville quoi. Ouagadougou, moi je me suis dit c'est du parler, c'est vraiment une ville. Ouagadougou, Honolulu aussi existe. Si vous rêvez d'y aller, d'ailleurs rien qu'à en parler, moi j'ai, vous savez, un appel qui arrive sur mon cœur, une conviction. Ah là là, Honolulu. Eh oui, parce qu'il faut aussi des pasteurs à Honolulu, hein, vous savez. Donc ce pasteur à Honolulu reçoit un bon cadeau pour un super restaurant, pour lui et sa femme. Un bon cadeau de 300 francs. Waouh! Bonne idée, hein, les amis. Super église, hein. Ah là 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 là. C'est vraiment énorme, 300 francs pour aller au restaurant, juste à deux. Bon, mais c'est vraiment un restaurant très 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 classe. Donc, après 6 mois d'attente, il trouve enfin une soirée de libre, parce qu'à Honolulu, il y a du travail aussi, pour sortir ensemble manger. Alors, ils se préparent, ils prennent vraiment une longue douche, ils se parfument, ils mettent leurs plus beaux vêtements, parce que vraiment, vraiment, ce resto est classe. Mais ils se réjouissent. Et puis, même, ils décident de nettoyer sa voiture. Parce qu'il dit, mais je peux. Il y a un service valet, vous savez, où vous laissez votre voiture à l'entrée, quoi. Donc, il dit, je ne peux pas arriver avec ma Ford pourrie, toute sale. Il faut que je fasse nettoyer ma voiture. Donc, il fait encore nettoyer sa voiture. Et puis, c'est le moment du restaurant, ils partent, tout est bien, tout est parfait. La jolie table, les bougies, comme on en rêve, vue sur l'océan, vous savez, on entend juste. Ah, c'est magnifique. Et puis, bon, ils ont toujours ce bon de 300 francs, donc on se lâche, quoi. On commande les bonnes choses. Franchement, pour deux, 300 francs, on peut y aller. Alors, on y va, puis c'est merveilleux. Et puis arrive le moment, ben voilà, c'est l'addition. Et puis là, le pasteur dit à sa femme, mais chérie, passe-moi le bon. Puis elle dit, mais chérie, c'est toi qui as pris le bon. Et puis lui, il lui dit, mais c'est toi la femme qui pense toujours à tout ce que j'oublie. Et puis elle fait, ouais, mais là, non, je t'assure. Hein, elle met demi-heure dans son sac à main, vous savez. Vous savez, mesdames, quand vous cherchez quelque chose dans votre sac à main. Demi-heure, voilà. Et puis non, le bon cadeau n'y est pas. Et puis ce pasteur a tiré une bonne leçon. Il a dit, ben, c'est vrai, on a tout qui colle bien, on n'a rien fait de faux. On avait les vêtements, on était préparés, on semblait aisé. On a mangé, on a agi comme des gens très aisés. Mais si, au final, on n'a pas ce bon cadeau, hein, si on ne le retrouve pas là, maintenant, ben, tout le reste tombe. C'est ça qui va valider, finalement, ce qu'il y a eu avant. Mais si on n'a pas ce bon cadeau, alors, on va être démasqué. Puis parfois, nos vies, c'est un petit peu comme ça. On peut sembler sain. On peut même agir de manière relativement juste. On peut sentir la sainteté. Tout semble parfait. Tout semble bien aller. Mais si on oublie de cultiver notre relation avec Dieu, si on oublie vraiment d'être en communion avec Jésus, alors tout ça va tomber. C'est notre relation avec Jésus qui va valider la réalité de ce qu'on paraît. C'est vrai ? Alors pour revenir à notre texte, Jean va donner une clé importante au verset 6 du chapitre 2. Celui qui dit demeurer en lui doit marcher aussi comme lui. C'est ça la clé. Celui qui dit demeurer en Christ doit marcher aussi comme Christ. Alors mon premier point ce matin, vous me voyez venir, soyez cohérents. Soyons cohérents. Vous connaissez peut-être Charles Finney, un éminent prédicateur du 19e siècle, un homme de réveil, un homme de feu. Et quand on lit ses écrits aujourd'hui, on a l'impression qu'il les écrit pour nous. Il dit, nous devons labourer, semer, vendre, c'était le travail du 19e siècle, en un mot, exercer chacun sa profession en vue de la gloire de Dieu, avec autant de droiture que pour nous rendre tous les dimanches au culte, que pour prier dans nos familles ou que pour lire notre Bible. Notre vie doit être cohérente. Tout doit être cohérent. Quoi que nous fassions, nous sommes appelés à marcher comme Christ. Et parfois on parle, vous savez, il y a le temps d'église, il y a le temps servir Dieu, ministère pour Dieu, travail pour Dieu, puis le reste c'est mon travail, c'est la vie professionnelle, c'est... Excusez-moi, mais il y a un problème. Travailler pour Christ, c'est travailler tous les jours, dans votre travail, dans votre lieu de profession. Ok ? Donc être chrétien ne se résume pas simplement à une enseigne sur votre porte où, bon, ça ne se met plus beaucoup, mais il y en a qui mettaient les poissons derrière la voiture. Il y en a beaucoup qui ont arrêté parce que leur façon de conduire n'était pas cohérente. Donc ils se sont dit, j'arrête de mettre le poisson parce qu'on va me critiquer. Ça ne se résume pas non plus à venir à l'église avec une belle et grosse Bible, la belle Bible d'études que le reste de la semaine, vous avez de la peine à ouvrir. Ça ne se résume pas à vos dons généreux pour la Syrie, bien que la Syrie ait besoin de dons. Être chrétien, c'est vraiment marcher comme Jésus. Beaucoup préfèrent ne pas dire qu'ils sont chrétiens parce qu'ils savent en fait que leur vie n'est pas cohérente. Ils le savent. On sait très bien que c'est important d'être cohérent. Vous le savez, non? Vous le savez. Mais c'est clair que si tu es le premier à faire les blagues grossières au travail, si tu es le premier à boire un verre de trop à la soirée de boîte, ça va être difficile de dire à tes collègues que tu es chrétien. Parce que eux aussi, ils attendent un comportement différent. C'est ça qui est drôle. C'est qu'en fait, les gens autour de nous attendent ce comportement différent. Si, madame, tu es jamais contente au boulot, si tu es plutôt mal poli quand tu réponds aux clients qui te demandent un super renseignement, même si c'est la dixième réponse qu'il faut faire pour la même question, si tu es caissière, dans quel sens on met la carte, vous savez ? Ça va comment la carte ? Oui, c'est de ce sens. Mais comment tu vas pouvoir dire que tu es chrétienne à tes collègues ? Chaque fois, tu es de mauvaise humeur. Moi, si je voulais vraiment savoir qui est un disciple ce matin, vous savez ce que je ferais ? C'est moi qui dis, hein, c'est pas Dieu. Pour ceux qui sont mariés, je demanderai à votre conjoint. Et puis, oui, je demanderai à vos collègues. Ben, c'est vraiment parlant, notre comportement sur le lieu de travail. Mais Dieu, lui, regarde là où personne ne voit. C'est encore plus fort. C'est là le plus révélateur. Est-ce que ma vie dans le secret est cohérente avec ce que je prétends être ? Posez-vous la question. Est-ce que ma vie est cohérente dans le secret ? Jean dira au verset 9 du chapitre 1, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. » On cite souvent ce verset. Donc, je ne dis pas qu'il faut être parfait de nouveau. Par contre, confessons nos péchés. Disons qui on est vraiment. On est en marche. Donc il n'y a pas de poids de culpabilité ce matin. Mais on cherche à vivre une vie cohérente. On le désire. Il s'agit de ce qu'on prétend. Moi, vous le savez, je ne suis pas parfait, je vous le dis, je vous le dis. Mais j'ai envie que si vous veniez chez moi, si vous veniez dans ma maison, j'aimerais que vous puissiez voir une cohérence entre ce que je vous prêche ce matin, puisque je vis avec ma famille. Mais vu que nous ne sommes pas parfaits, ben, parfois il y a des moments où on doit se demander pardon. Mais on essaye, on veille à notre langue, on s'aime, on cultive la joie dans la maison. Puis des fois, on doit implorer la grâce et puis le secours de Jésus parce qu'on n'en peut plus, parce que les enfants, ils sont fatigants, parce qu'il y a trop. Ben oui, ça c'est la vie normale, c'est la marche. Jésus aussi, il a crié au Père quelquefois. Mais c'est cohérent avec le message de l'Évangile. On cherche à le mettre en premier, mais on est imparfait. on s'encourage, on se fait grâce. On essaie de se dire les choses dans la vérité et dans l'amour. Est-ce que vous désirez que votre maison soit cohérente, que votre vie soit cohérente, les amis? Amen. Peut-être que pour certains, vous réalisez ce matin, vous dites, mais c'est vrai. Je suis là, mais il n'y a rien qui joue vraiment. Alors vous pouvez confesser, vous pouvez parler à Jésus, vous pouvez choisir ce matin d'avoir une vie cohérente avec lui. Vous connaissez peut-être Oswald Chambers, il a écrit un ouvrage d'édification, « Tout pour qu'il règne ». C'est un best-seller, peut-être vous avez lu quelque chose de lui. Il dit « Le langage est sincère lorsque l'apparence et la réalité sont identiques ». Le langage est sincère lorsque les apparences et la réalité sont identiques. Si votre vie est cohérente, ce que vous allez dire sera cohérent aussi, sera vrai, sera sincère. Alors, celui qui dit « demeurer en Christ » doit marcher comme Christ a marché. Donc la cohérence de notre vie va démontrer l'état de notre communion avec Christ et puis ça va authentifier notre vie de foi. Vous allez voir que si aujourd'hui vous êtes dans ce lieu puis vous êtes abattu, vous êtes fatigué, vous êtes là, moi je peux vous dire aussi qu'alors qu'on cherche à vivre une vie authentique, qu'on cherche à vivre une vie cohérente, Dieu vient à notre secours. C'est vrai. Alors après avoir dit cela, Jean va développer donc le thème de l'amour. Pourquoi ? Parce que l'amour, c'est une marque de Jésus, c'est une marque de fabrique, il est amour, non ? Alors marcher comme Jésus, ça veut dire aimer aussi. Donc il va développer ce thème, un thème concret. Et puis Jean, d'ailleurs, rapporte les paroles de Jésus dans son évangile. Si vous lisez, je vous encourage à lire 1 Jean, puis à lire l'évangile de Jean, vous verrez qu'il y a énormément de parallèles. On sait tout de suite que c'est le même auteur. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, les versets 34 et 35, il est dit, vous connaissez aussi ce verset certainement, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Attention, « À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Comment je peux savoir que vous êtes disciples ce matin ? À l'amour que vous avez les uns pour les autres, à l'amour que vous manifestez. Ça, c'est une preuve tangible de qu'est-ce qui vit en vous. Alors Jean va développer ça. C'est ça qui va apporter comme vérité dans cet épître. Et il dira, c'est le chapitre 2, verset 9, « Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est toujours dans les ténèbres. » Et puis un peu plus loin, je vous montre un petit résumé. Chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous avons passé de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous savons qu'on a passé de la mort à la vie parce qu'on aime les frères. Voilà, encore une fois, c'est une preuve. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Chapitre 4, versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu. Et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas, attention, n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. Un peu plus loin, verset 20 du chapitre 4 toujours. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il ne voit pas, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Son frère qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas, pardon. Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Est-ce que c'est assez clair ? J'ai rien besoin de rajouter. Est-ce que c'est assez clair ? L'amour résume le message de l'évangile. Mais quand est-ce qu'on va le mettre en pratique, les amis ? J'en suis même fatigué. On s'éparpille, on fait des formations, on fait des trucs pour... des cours, des théories, des séminaires, c'est bien en soi, ok. Mais si on commençait par aimer l'autre, dans l'église, puis au-delà de ces murs, je vous promets que les choses seraient tellement différentes, tellement. Parce que celui qui a le cœur brisé, il peut aller faire un cours pour être restauré, mais s'il sent l'amour de ses frères, je vous promets qu'il va être relevé bien vite. Donc on se contente de mettre les gens dans des cours, des séminaires pour les aider, alors que si on les aimait. Croyez-vous que la parole est inspirée de Dieu ? Croyez-vous qu'elle est vérité ? Donc vous êtes d'accord avec Jean ce matin ? Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu. Pardon ? Amen. Où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Je cite encore Oswald Chambers qui dit « Nous avons à nous consacrer entièrement à l'amour. Cela veut dire que nous devons nous identifier à l'intérêt que Dieu porte à d'autres gens. Et soit dit en passant, Dieu s'intéresse à certaines personnes bizarres. C'est-à-dire vous et moi. » Voilà. Dieu s'intéresse à certaines personnes bizarres, à des gens bizarres comme vous et moi. Mais on doit se consacrer à l'amour. Est-ce que réellement vous êtes connu pour votre amour pour les autres ? Franchement. Est-ce que lorsque vous parlez à votre collègue ou à votre voisine ou votre voisin, la caissière de votre supermarché, est-ce qu'ils peuvent ressentir vraiment l'amour au travers de vous ? Est-ce que même vous y avez pensé ? On devrait y penser tout le temps. L'amour devrait vraiment transparaître. Alors, bien sûr, je dis tout ça, on a besoin de l'aide de l'Esprit, d'accord ? Comprenez-moi bien, on a besoin du Saint-Esprit. Mais c'est un tout. Si on vit la communion avec Christ, alors on reçoit son Esprit, on est rempli d'amour, et puis on va pouvoir donner. Celui qui n'a pas d'amour, ça veut dire qu'il n'est pas en relation avec Christ. Il n'a pas connu Dieu, c'est ça que la Bible nous dit. Donc en dernier lieu, ce matin, j'aimerais vous dire que marcher comme Jésus, et donc aimer comme Jésus, signifie aussi aimer au mauvais moment. Et peut-être c'est là que ça commence à bloquer le plus. Souvent, on se prépare à faire notre bonne action. Chérie, prépare-toi. Dimanche prochain, on invite Tartampion. Il faut quand même l'inviter à l'occasion. Lui témoigner qu'on a une famille. Voilà, donc là, du coup, plus personne ne voudra venir chez moi parce qu'ils vont se dire, est-ce qu'il l'avait prévu ? C'est nous, Tartampion ? Non, non, ne vous inquiétez pas. On vous aime tous, sans exception. Mais il y a un verset épatant où Jésus nous démontre sa compassion alors qu'il traverse un moment très dur. Jésus vient d'apprendre la mort de Jean-Baptiste. Vous connaissez Jean-Baptiste, vous savez qu'il était décapité. Donc Jésus apprend ça. Tu sais, Jean-Baptiste, il est mort, il est décapité. Et puis là, qu'est-ce que Jésus a envie de faire ? Il a envie juste de s'isoler. Ça se comprend, non ? Il a envie de prendre du recul, d'être seul. Cette nouvelle l'a affecté. Je suis sûr que vous avez aussi des fois cette réaction-là. Quand quelque chose vous affecte, vient vous chercher, ou même vous avez une très mauvaise journée, vous rentrez à la maison, peut-être que vous n'avez pas forcément envie de... avoir plein de monde à la maison. Ça vous arrive peut-être, il y a une petite fête qui est prévue à la maison, vous êtes fatigué, puis vous rentrez, puis il y a du monde partout. Non, vous avez juste envie d'être seul, au calme. Puis Jésus était la plupart du temps entouré. Ceux qui ont fait le camp d'enfants, les moniteurs, il y a un moment donné, vous avez juste envie d'être un petit moment tout seul. Il y a des enfants partout, ça crie partout, les repas sont bruyants, sont très bons mais bruyants. Il y a juste un moment où on en a marre d'être tout le temps avec du monde. On a besoin d'être seul. Jésus avait ce besoin-là. Et puis, voilà qu'il prend une barque pour traverser le lac, pour trouver après un petit coin tranquille, désert. Et puis alors qu'il est parti, voilà que des gens font le tour pour le rejoindre de l'autre côté. Puis lui, il est dans sa barque, on peut imaginer, il est en train de penser à ça, il est attristé, certainement que... Il se dit, Jean-Baptiste, c'est celui qui a préparé mon chemin. Il a préparé la venue du Messie. Je suis là. Puis maintenant, il est mort décapité. Puis ça doit faire référence à sa propre mort qui va arriver. Donc, il pense tout ça. Il arrive de l'autre côté. La foule est là. Wouh ! Youpi ! Quelle chance ! Et bien fait de me suivre. Comment vous avez su ? Non, il n'a pas dit ça. Pas du tout. Moi, je ne sais pas comment vous avez réagi, mais peut-être qu'à ce moment-là, c'est pas là que j'aurais eu mon meilleur sourire, ou que j'aurais été vraiment le plus amour, accueillant. J'aurais peut-être dit, vous pouvez me laisser 5 minutes, franchement. Vous n'avez pas réalisé que vous êtes tout le temps à me suivre partout, à me coller, j'en ai marre. Peut-être j'aurais dit ça, humainement. Et lui, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 14, 14 ? En débarquant, il vit une grande foule, il fut pris de pitié pour eux et guérit leurs infirmes. Voilà l'amour de Jésus. Il est pris au fond de lui-même. Il y a des émotions. Ce n'est pas du tout le moment. Il y a une foule devant lui, il est plein de compassion et il va agir avec amour. Vous voulez aimer comme Jésus? Alors il va falloir accepter d'aimer même dans ces moments-là. Souvent on veut bien aimer, mais il ne faut pas que ça nous dérange. On veut aimer, mais il ne faut pas que notre programme soit trop chamboulé. Notre programme, je dis pour moi, bien suisse, vous savez. Il ne faut pas que ça nous prenne trop de temps non plus. J'ai 2 minutes à te consacrer. C'est tout. Ce sera difficile d'aimer comme Jésus si on réagit comme ça. Sommes-nous disponibles pour aimer? Si je vous parle de tout ça, c'est parce que c'est un besoin, même dans l'Église. Moi, je vous le dis, je suis content d'une Église qui grandit. Je crois à la croissance de l'Église. Mais si on perd la substance, si on perd l'amour, si des gens viennent et puis ne trouvent pas cette famille qu'on prétend être, alors comment ils vont pouvoir connaître Dieu aussi? Est-ce qu'on s'aime suffisamment les uns les autres? On ne peut pas juste se contenter de vivre pour nous-mêmes ou bien notre petit cercle d'amis. J'aimerais vous rappeler, en terminant, que ce qui aura le plus d'importance au final, ce n'est pas de savoir si j'ai fait les courses jeudi au lieu de mardi, c'est de savoir si j'ai connu Dieu. Est-ce que j'ai connu Dieu? Et celui qui connaît Dieu aime son frère. Celui qui se dit chrétien marche comme Jésus a marché. Mais réjouissez-vous. On est en marche, non? Saint-Esprit va agir. Réjouissez-vous, il prend le temps de nous parler de ça ce matin. Parce qu'il veut, le Saint-Esprit, Dieu veut qu'on s'aime. Dieu veut qu'on aille plus loin dans cette rivière. Parce qu'il prépare son retour. Alors je termine, qu'est-ce qui me prouve ce matin que vous êtes des vrais disciples de Christ? Des chrétiens en relation avec Jésus? Le résumé? Une vie cohérente? Marcher comme Jésus. Votre amour pour les frères et votre capacité à aimer dans les moments qui ne sont pas favorables. J'aimerais simplement qu'on puisse, ce matin peut-être, juste prendre le temps de s'arrêter, regarder à notre vie, et puis qu'on puisse s'encourager. D'accord? C'est pas plombant. Je veux pas que ce soit plombant, surtout pas. Mais juste qu'on s'encourage. Parce que c'est tellement bon d'aimer. C'est tellement bon d'être aimé. Ça change tellement tout. Et je ne veux pas résumer en disant c'est facile, aimer, etc. Je sais que ce n'est pas facile, mais ça doit être notre priorité. On doit se consacrer à l'amour. Consacrer. On veut se consacrer à plein de choses, mais est-ce qu'on est prêt à se consacrer à aimer, comme Jésus a aimé, à se laisser déranger un peu, à ouvrir notre maison de temps en temps. Même s'il y a du chenille, ce n'est pas grave. On va simplement prier ensemble.